France Inter.
Le 13-14, Amélie Perrier.
Bonjour à tous, au sommaire de ce 13-14. Des territoires dévastés dans l'actualité aujourd'hui, à Gaza d'abord, où la guerre a grondé de nouveau, plus de 100 morts dans des frappes de l'armée israélienne. L'État hébreu a brisé le cessez-le-feu la nuit dernière, mais s'arrête là, dit le gouvernement. Qu'en est-il de la paix au Proche-Orient ? On posera la question dans ce journal. Des paysages de désolation également en Jamaïque, après le passage de l'ouragan Mélissa, on tente de mesurer l'état des dévastations. Les Pays-Bas votent, l'Europe observe, car c'est un baromètre de la poussée de l'extrême droite. Avec la victoire annoncée de Geert Wilders, nous irons auprès des électeurs néerlandais parmi les sujets qui comptent pour eux, celui du manque de logements dans le pays. En France, Jordan Bardella, lui aussi, veut emmener l'extrême droite au pouvoir. Il sort aujourd'hui un livre, une rencontre avec des Français qu'il a choisi. On l'a lu pour vous, décryptage à venir. On retournera à l'Assemblée nationale également, puisqu'hier, les députés se sont déchirés sur des taxes pour les grandes entreprises, les GAFAM et les multinationales. Alexis Morel, c'est vous qui suivez les débats.
Oui, la taxe GAFAM passe de 3 à 6%. Les députés envisageait 15% initialement, mais les risques de représailles américaines et les avertissements du gouvernement ont calmé les ardeurs du bloc central.
Une cyberattaque potentiellement très sensible. Les pirates ont dérobé les données de la Fédération française de tir. Le souci, elles comprennent les adresses notamment de policiers, de gendarmes et de propriétaires d'armes à feu inquiets.
Il y a l'adresse, le numéro de téléphone, tout sur le net. Potentiellement, on peut être ciblé par des cambrioleurs parce qu'on détient des armes à la maison.
À 13h30, quand le deuil survient, comment faire face au travail en cette période de Toussaint ? On se penche sur l'une des épreuves les plus universelles, la perte d'un proche. Et l'on se demande aujourd'hui comment on peut accompagner un salarié endeuillé ? Quel est le rôle de l'entreprise dans cette douleur si intime ? Venez en parler avec nous au 01 45 24 7000. Et l'on se mettra du baume au cœur dans C'est une chanson. Aujourd'hui, Lola Dubini, la comédienne, chanteuse et humoriste, a choisi I Will Always Love You, version Dolly Parton.
Ce que j'aime chez Dolly Parton, c'est le trop, c'est l'exagération de ses ongles en acrylique, c'est parfois même presque le mauvais goût poussé à son excellence, et ça en devient du génie, selon moi.
Le génie de Dolly Parton. Vous avez le menu à table.
France Inter.
Il pensait le cauchemar terminé, mais le fracas des bombes a de nouveau fait trembler les Gazaouis. Les secours palestiniens recensent ce matin plus de 100 morts, dont 35 enfants, quand l'armée israélienne se félicite d'avoir ciblé des dizaines de chefs de mouvements armés palestiniens. Luca Lazo, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Bonjour.
Bonjour Amélie.
Vous avez pu joindre un témoin dans la bande de Gaza pour vous raconter ce retour brutal de la guerre.
Oui, même plusieurs personnes avec qui j'ai pu m'entretenir ce matin m'expliquaient redouter une fois de plus prendre leur téléphone pour s'enquérir de leurs proches. Loaï Nasser, humanitaire à Deir el-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, me confiait ce matin avoir traversé une nouvelle nuit d'horreur.
Au cours des 20 dernières heures, l'armée israélienne a bombardé plusieurs zones à travers l'ensemble de la bande de Gaza, au-delà de la ligne jaune. Elle a visé des maisons, des tentes. Il y a un grand nombre de victimes, plus d'une centaine selon les hôpitaux.
Ce bilan pourrait encore s'alourdir alors que la défense civile palestinienne rencontre des difficultés à intervenir dans les décombres. Loaï Nasser me confirmait que les bombardements ont cessé ce matin, aux alentours de 10 heures. Mais pour combien de temps ?
Les gens ici sont terrifiés par la situation. Ils ne souhaitent qu'une seule chose, c'est la stabilité du cessez-le-feu. Mais vous voyez que les Israéliens continuent de cibler les civils, de tuer des activistes, des familles. Nous appelons la communauté internationale à exercer une pression pour que Israël s'engage à nouveau à respecter le cessez-le-feu.
L'armée israélienne a justifié ses frappes en riposte à la mort de l'un de ses soldats survenu hier lors d'un incident dont le Hamas nie la responsabilité.
Merci Luca Lazo en direct de Jérusalem pour France Inter. C'est la plus grosse entaille dans le cessez-le-feu depuis son entrée en vigueur le 10 octobre. Dans la matinée, Israël l'assure, le cessez-le-feu reprend. Son principal allié Donald Trump veut croire que sa paix, la paix qu'il a arrachée au Hamas et à l'État hébreu, n'est pas en péril. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
De la rédaction internationale. Qu'en est-il aujourd'hui de ce cessez-le-feu ?
Eh bien, on est revenu dans un conflit de basse intensité. C'est une paix armée qui est en train de se dessiner. Les Israéliens se réservent le droit de frapper à tout moment s'ils jugent la situation légitime. C'est en quelque sorte la libanisation de Gaza, dans le sens où l'armée israélienne peut intervenir sans déchirer immédiatement le cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a desserré le corset qui semblait lui avoir été imposé par le président américain avec l'accord de paix. La semaine dernière, il semblait sous tutelle de l'administration Trump. En Israël, on parlait même de Bibi-sitting. Il montre aujourd'hui, Bibi, qu'il a retrouvé des marges de manœuvre validées depuis Air Force One par le parrain du processus, Donald Trump, qui considère qu'il n'y a pas d'entaille dans son accord de paix lorsqu'il y a réplique militaire à une situation d'agression. Gaza entre donc dans une période de ni paix ni guerre. C'est un motif d'angoisse supplémentaire pour les habitants, on l'entendait. C'est un moyen de pression sur le Hamas. Cela conforte politiquement le Premier ministre israélien vis-à-vis de son extrême droite, mais cela fragilise aussi toute la construction à venir de la phase 2 du processus qui doit créer les bases de la paix dans un contexte maintenant très volatile.
Étienne Monin, merci à vous. Et la diplomatie française a réagi ce matin. Le cessez-le-feu à Gaza est menacé et doit être rétabli au plus vite, a dit Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères en Conseil des ministres. Des paysages de dévastation, mais là, ce n'est pas la guerre qui a sévi, c'est un ouragan d'une puissance rare, ce serait même le plus puissant à toucher terre depuis 90 ans. Mélissa a balayé la Jamaïque et souffle désormais à Cuba, moins fort, avec quand même des vents à près de 200 km/h, désormais rétrogradé en catégorie 3. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Quand Mélissa est passée sur la Jamaïque, il était au niveau 5, niveau maximal. L'île se réveille, commence-t-on à avoir une idée des dégâts?
Eh bien, les images que nous voyons pour l'instant ont été tournées avant la nuit et c'est rude, effectivement. Là, c'est un homme manifestement sidéré qui filme. Bethelton Flat, dit-il, la ville de Bethelton par terre dans l'ouest de l'île, au-dessus de Montego Bay. Effectivement, les arbres sont scalpés, les maisons écroulées ou sans toit, les tôles éparpillées. Sur une autre vidéo, ce sont des images de bord de mer envahies de gros galets, un bateau quasiment sur la route, il n'y a plus de plage. Maintenant, nous sommes à Black River, au sud-ouest, là où l'ouragan a touché terre. Alors que le vent souffle encore très fort, vous l'entendez, la pluie s'est quand même calmée. Il montre l'église du tout début du XVIIIe siècle, pulvérisée. Il ne reste que le clocher. Les briques sont éparpillées. La rue principale n'est qu'un amas de gravats, de maisons détruites, des miettes de maisons, des poteaux électriques cassés, des enchevêtrements de fils qui pendent. Même vision désolante pour cet habitant de Santa Cruz, un peu plus loin, dans sa voiture.
Jaja, Main Street.
La rue principale.
Santa Cruz. Mais Mada's JN Coles Farm Store.
Il énumère les enseignes donc, et les commerces inondés, très endommagés. D'autres habitants ont pu filmer des rues transformées en torrents boueux. L'ouragan est donc passé. Les forces de police locales dégagent les routes à présent, coupent les arbres notamment qui entravent la circulation pour aller porter secours.
Merci Béatrice Duguay. Et à Cuba où Mélissa est arrivée, plus de 700 000 personnes ont été déplacées pour être mises à l'abri. Au Vietnam aussi, les éléments se sont déchaînés, des inondations provoquées par des pluies records dans le centre du pays, sur la ville impériale de Hue, notamment. Plus de 100 000 maisons sous les eaux, 4 morts, des disparus. Les précipitations ont atteint 1,70 m en 24 heures. Plus de 150 glissements de terrain ont été signalés. Plus de 2000 hectares de cultures dévastées. Aux Pays-Bas, c'est une vague brune qui pourrait sortir des urnes aujourd'hui. Élections législatives anticipées. Un test en Europe pour évaluer la poussée de l'extrême droite. Les sondages créditent Geert Wilders, le leader du PVV anti-immigration, islamophobe, d'une victoire aussi spectaculaire que celle d'il y a 2 ans. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial aux Pays-Bas. Vous êtes dans les quartiers nord d'Amsterdam. Les électeurs votent depuis ce matin. Vous êtes devant un bureau et parmi les sujets qui comptent pour eux, celui du logement incontournable dans le pays.
Oui, notamment dans ce quartier nord où je me trouve en pleine transformation urbaine où l'on construit des tours de logements à marche forcée. De quoi déboussoler cette habitante historique du quartier Maria, 70 ans. Elle votera pour l'extrême droite, séduite par son discours anti-migrant.
Ils veulent venir ici, mais on n'a pas assez de logements. Qu'ils rentrent chez eux et qu'ils aillent se battre pour leur propre pays. Ma fille a fini par s'installer dans le sud des Pays-Bas. Elle n'a pas pu trouver ici. Vous vous retrouvez sur une liste d'attente pendant 20 ans et au dernier moment, un migrant vous passe devant parce que, vous comprenez, il faut prendre soin de lui. Il ne faut pas qu'il prenne nos logements. Nos enfants en ont aussi besoin.
Un autre électeur qui sort du même bureau de vote tend l'oreille. Une fois Maria partie, ce consultant de 52 ans, Chris, tient à réagir à ce qu'il vient d'entendre.
Ce qu'elle exprime est sincère, bien sûr, mais je pense que la cause profonde, ce ne sont pas forcément que les migrants. Ne blâmer que les migrants, c'est hyper simpliste, c'est du populisme. Et ça ne règle rien au vrai problème qui nous empêche de bien nous sentir chez nous.
Comme la question du changement climatique, dont Chris déplore notamment qu'elle ne prenne pas une place plus centrale dans le débat politique. Il a voté pour le centre-gauche en espérant tourner la page de la coalition droite-extrême-droite qui gouverne aujourd'hui les Pays-Bas.
Fabien Cazot aux Pays-Bas pour France Inter. Quand une opération anti-drogue se termine en carnage dans les favelas de Rio au Brésil, plus d'une soixantaine de personnes ont été tuées dans l'opération policière la plus meurtrière de l'histoire de la ville. Opération contre un gang de narcotrafiquants. Illustration selon le chercheur Gaspard Estrada, d'un modèle structurel qui ne fonctionne pas au Brésil.
Il y a de vraies questions par rapport au modèle de sécurité publique qui a été adopté lors de la Constitution, lors de 1988, qui accorde aux États, et non pas à la fédération, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, le contrôle des forces de police, ce qui implique un manque de coordination entre ces différents services et d'autre part un modèle de recrutement, de formation, de rémunération des agents de police qui reste imprégné par le legs de la dictature militaire. Et il y a eu très peu de réformes en la matière depuis le retour du Brésil à la démocratie. L'exemple d'hier montre bien que voilà, les violences policières, mais aussi la violence de manière générale, est très présente dans les rues du Brésil.
Le politologue Gaspard Estrada, il appartient à l'unité du Sud Global à la London School of Economics et il répondait à Nathanaël Charbonnier.
France Inter, le 13-14, Amélie Perrier.
Voici une cyberattaque peut-être plus inquiétante que les autres en France, parce qu'elle visait ici justement des forces de l'ordre et des détenteurs d'armes. En fait, c'est la Fédération française de tir sportif qui a été ciblée par les pirates informatiques. Ils ont pillé les données personnelles des adhérents, leur adresse postale. Or, parmi les adhérents, donc des policiers et des gendarmes, mais aussi des amateurs de tir en possession d'armes à feu chez eux, des tireurs plutôt inquiets. Mathieu Bonnour, vous en avez rencontré dans un club à Paris.
Tout se passe sous l'immense parc aquatique Aqua Boulevard. Une simple porte cachée des regards entre les voitures garées dans ce parking souterrain. Seul indice, des détonations. À la sortie, Gilles, une trentaine d'années d'expérience derrière lui.
Il y a l'adresse, le numéro de téléphone, tout sur le net. Potentiellement, on peut être ciblé par des cambrioleurs parce qu'on détient des armes à la maison. Je subis. Je ne vais pas déménager parce que mes données géographiques ont fuité sur le web.
Des armes bien gardées, dans un coffre, chez lui, la loi l'impose, c'est une mesure de sécurité, mais ça reste inquiétant.
Les cambrioleurs, ils arrivent à fracturer le Louvre, s'ils veulent, ils arriveront aussi à fracturer chez moi. On branche la caméra un peu plus souvent, parce que c'est vrai que des fois on avait tendance à pas la brancher, j'essaie de le mettre systématiquement.
Dans cette liste, ce n'est pas précisé si les licenciés ont une arme chez eux ou non. C'est ce qui rassure François, il sort d'une session de tir, lui aussi, pas inquiet d'un risque de cambriolage. Ce qui le dérange, c'est cette intrusion dans sa vie privée.
C'est toujours Kikino, il y a des choses que vous n'avez pas vraiment envie de dire partout. Maintenant, il faut être habitué. Malheureusement, le piratage de données, c'est pratiquement tous les matins.
La Fédération française de tir se montre rassurante, assure qu'une procédure a été lancée pour changer tous les mots de passe et en profite pour lancer un audit pour renforcer ses défenses face aux cyberattaques.
Le reportage de Mathieu Bonnour. À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances se poursuit cet après-midi. La taxe Zuckman sur les ultra-riches sera peut-être examinée tard ce soir ou plus probablement vendredi. Mais dès hier, la contribution des plus fortunés a donné lieu à des débats houleux dans l'hémicycle. Bonjour Alexis Morel.
Bonjour Amélie.
Service économie. Les députés ont alourdi la taxe GAFAM pour les géants de la tech et ça s'est fait dans la douleur.
Oui, au bout de la nuit, l'Assemblée a voté le doublement de cette taxe sur les services numériques de Google, Meta,
Amazon. De 3% actuellement, on passe donc à 6%. Loin d'être anodin, mais beaucoup moins ambitieux que ce qui était sorti de l'examen en commission, à savoir 15% contre ces géants américains. Une hausse massive, soutenue y compris au sein des rangs macronistes, mais bien trop dangereuse selon le gouvernement, en pleine guerre commerciale avec Trump. D'où cette supplique du ministre Roland Lescure.
Si on introduit une taxe sur les services numériques disproportionnée, on aura des représailles disproportionnées. Soyez prudents, mesdames et messieurs les députés. L'audace, c'est bien. La tête dans le mur, c'est moins bien. Soyez prudents, je vous en conjure.
La crainte de représailles immédiates et les menaces à peine voilées ces derniers jours, notamment de la Chambre de commerce américaine, tout ça a fini par convaincre les macronistes de se limiter donc à 6%. Colère de la gauche pour qui la France cède là bien trop facilement au chantage. Dangereux précédent pour l'écologiste Cyrielle Chatelain.
Moi, je suis extrêmement gênée de voir le nombre de députés qui retirent leur amendement sous caution de pression faite par des instances étrangères. Cela veut dire qu'on ne peut plus légiférer sur la question des GAFAM sous les menaces de Trump. Ce n'est pas possible. Nous devons avoir notre indépendance.
Et les députés, Alexis, ne se sont pas arrêtés là. Ils ont voté aussi une taxe sur les plus grandes multinationales.
Oui, une initiative de la France insoumise à laquelle s'est ralliée toute la gauche, mais aussi le RN, pour taxer donc les bénéfices de ces multinationales proportionnellement à leur activité réalisée en France et lutter ainsi contre l'optimisation fiscale. Vous savez, quand ces groupes mondiaux transfèrent leurs bénéfices dans des paradis fiscaux pour échapper à l'impôt ici. Selon LFI, cette mesure à elle seule rapporterait plus de 20 milliards d'euros. Mais le gouvernement y voit, lui, 20 milliards d'ennuis et un gros risque juridique pour la France.
Merci Alexis Morel. Vous continuez de suivre ces débats budgétaires à l'Assemblée nationale pour nous. Voilà pour la taxation des plus grosses fortunes. Mais ce projet de budget pourrait faire mal aussi aux apprentis. Si la loi de finances passe, c'en serait fini de l'exonération des cotisations sociales pour les apprentis dans le secteur privé. L'Association des apprentis de France prévoit une baisse de revenus entre 100 et 187 euros net par mois en moins pour les apprentis. Nouveau coup dur après la baisse des aides aux entreprises en début d'année. Les étudiants ont de plus en plus de mal à trouver des patrons voulant bien les accueillir, Noa Marchais.
Ça fait 6 mois maintenant que Cyril, étudiant en cybersécurité dans un CFA d'Amiens, cherche une entreprise.
J'ai l'impression que ça va être compliqué du coup de trouver une alternance pour cette année et je me sens un peu désespéré, ça donne envie de baisser les bras.
Après avoir démarché pas moins de 40 sociétés, il a eu une seule réponse.
J'étais sur une bonne piste, sauf que j'ai été refusé par manque de budget parce qu'il fallait me payer un certain pourcentage du SMIC et avec les aides qui ont diminué, ils m'ont pas pris.
L'étudiant de 21 ans a du mal à envisager la suite.
Soit d'essayer de rentrer dans le monde du travail, malheureusement, même si j'ai envie de continuer mes études, ou soit essayer de faire les formations initiales. Sauf que c'est là où vient le problème de pouvoir subvenir aux besoins pour, de payer mon logement, la nourriture, puisque mes parents n'habitent pas ici du tout.
Jean-François Desbonnet est le directeur régional du CFA de Cyril. Il déplore la fin des aides.
Je regrette un peu cette remise un peu en cause de ce dispositif, alors qu'on a besoin de lisibilité, de pérennité sur ce dispositif de formation pour vraiment inscrire l'apprentissage dans le schéma classique de formation d'un jeune en France.
Les effectifs des apprentis au CFA Jean Bosco sont en baisse de 5% par rapport à l'année dernière sur la région des Hauts-de-France.
Noa Marchais, ici Picardie, eux aussi sont inquiets pour leur avenir. Les départements de France sont les collectivités les plus en difficulté financière. Les débats budgétaires, les efforts demandés toujours plus lourds et les dépenses sociales de plus en plus importantes. Le président des départements de France, François Sauvadet, a voulu alerter ce matin sur une situation critique.
On ne peut pas continuer comme ça, on va droit dans le mur. Rendez-vous compte que pendant qu'on nous dit qu'il ne faut pas creuser les déficits, il faut faire des efforts, on nous a imposé à nous, département de France, 6 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en pratiquement 2 ans. 6 milliards pendant que nous avons perdu 8 milliards de ressources. Donc on va droit dans le mur et c'est les Français qui vont trinquer. On entretient les routes. Comment on va faire les 100 000 ponts que nous avons à entretenir, 380 000 km de route, comment on va faire? Donc on est aujourd'hui, pour 60% des départements, en situation de très grande difficulté. Ça fait des mois que j'alerte le gouvernement sur cette situation. Et nous n'avons pas eu de réponse. Nous n'en avons toujours pas. Pour seule réponse, on nous dit qu'il faudrait que vous participiez en plus au redressement des comptes publics sur des dépenses qui nous sont imposées. Mais enfin, on marche sur la tête. On a des départements aujourd'hui qui sont en situation de quasi-faillite. Donc on fait comment ?
François Sauvadet estime à 600 millions d'euros l'apport de l'État nécessaire pour accompagner les départements en difficulté. Le président des départements de France était au micro de Claudia Bertram. Et dans ce chaos politico-budgétaire, Jordan Bardella voudrait bien sortir son épingle du jeu. Le président du Rassemblement National sort son nouveau livre, Un pas de plus dans sa marche vers la présidentielle de 2027. Bonjour Lise Roseveil.
Bonjour.
Vous l'avez lu, ça s'appelle Ce que veulent les Français, paru chez Fayard, propriété de Vincent Bolloré. Et c'est en fait une vingtaine de portraits, du boulanger à la magistrate, en passant par un agriculteur et une professeure de collège. Un recueil, Lise, censé montrer la France que l'on n'entend plus.
C'est surtout la France de Jordan Bardella. Les témoins le tutoient et pensent comme lui. Ils dénoncent des normes à tout va, des règles européennes déloyales, une insécurité grandissante. Leur discours pourrait être celui du président du RN. Ils n'ont d'ailleurs pas été choisis au hasard, après une rencontre sur le terrain ou par l'intermédiaire d'un ami député. Au casting, on retrouve même une eurodéputée du RN, la magistrate. Le seul immigré est le patron d'un restaurant italien du 16e arrondissement de Paris, où Jordan Bardella a ses habitudes. Et le dernier portrait est consacré à sa mère, ancienne employée d'une école maternelle en Seine-Saint-Denis. Des Français qui tous travaillent tôt le matin, tard le soir, et beaucoup de petits chefs d'entreprise. On perçoit entre les lignes une critique de l'assistanat et la proximité que Jordan Bardella veut afficher avec les patrons. Chaque chapitre est l'occasion de distiller son programme. Peine plancher incompressible, retour de l'uniforme ou encore allègement de la fiscalité. « Je n'oublierai rien », conclut-il, déjà au futur, un presque candidat qui consacre un simple paragraphe à Marine Le Pen.
Lise Roseveil, service politique de France Inter. Une culture du consentement, c'est l'enjeu de la modification du code pénal entériné aujourd'hui au Parlement, avec un dernier vote au Sénat cet après-midi. La notion de consentement est désormais intégrée à la définition du viol, je vous la cite, constitue une agression sexuelle, tout acte sexuel non consenti. La baisse des températures ces derniers temps semble éloigner la menace du chikungunya, selon le dernier bulletin de santé Public France. Aucun nouveau foyer n'a été détecté ces derniers jours en métropole. Passez-vous de fromage à midi. Des reblochons font l'objet d'un rappel à cause d'un soupçon de contamination à la bactérie E. coli. Des reblochons vendus en supermarché dans toute la France par Intermarché, les magasins U, Leclerc, Auchan ou encore Grand Frais. Les références précises sont sur le site du gouvernement. Rappel conso. Ils sont les nouvelles coqueluches du tennis français. Les deux cousins, Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht, après leur finale inédite au Masters de Shanghai. Revoilà la famille réunie au Masters de Paris, à la Défense Arena, où l'on vous rejoint. Fabrice Abgral, bonjour.
Bonjour.
On en est à 1-7 partout, c'est ça ?
1-7 partout, en effet. Le premier set remporté par Arthur Rinderknecht au tie-break, très disputé. Hein. 11-9 en faveur d'Arthur Rinderknecht, alors que Valentin Vachereau avait bénéficié de 2 balles de set effacées par le numéro 2 français. Mais Valentin Vachereau ne s'est pas laissé décourager, ne s'est pas laissé surprendre, ne s'est surtout pas laissé le numéro 2 français prendre confiance dans cette rencontre, puisqu'il a remporté la deuxième manche sur le score de 6 jeux à 3. Le troisième set vient de débuter, 1-0 pour Vachereau. Mais Vachereau qui vient de se procurer 2 balles de break sur le service d'Arthur Rinderknecht pour mener 2-0, service à suivre, et effacé par Arthur Rinderknecht. Ce n'est pas un très grand niveau de tennis, il faut bien le reconnaître, beaucoup de tension, beaucoup de pression, mais Valentin Vachereau est toujours là, lui l'actuel 40e mondial, alors qu'il y a 3 semaines il était 204e joueur mondial quand il a remporté ce fameux Masters 1000 de Shanghai. Les deux joueurs sont sur le court depuis 2h09, 1-7 partout entre Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau.
Le spécialiste du tennis à France Inter, Fabrice Sabgral, en direct de la Défense Arena, merci à vous. C'est mercredi, c'est cinéma. Les sorties cinéma de la semaine, c'est avec Alexis Demeyer. Bonjour Alexis.
Bonjour Amélie.
On commence, Alexis, avec le vrai faux biopic de Liliane Bettencourt, fort logiquement intitulé « La femme la plus riche du monde ».
Oh, ça vous plaît ?
Ah, c'est magnifique.
Allez, virez-moi cette croutasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors !
Allez, raus !
Vous Grâce avez peut-être vous, reconnu les voix d'Isabelle Huppert et de Laurent Lafitte qui interprètent ici des doubles de fiction de l'ancienne propriétaire de L'Oréal et de son ami envahissant, le photographe François-Marie Bagnier. Leur relation à la fois toxique et excentrique offre de très belles scènes de comédie à la sauce aigre douce. Le réalisateur Thierry Cliffat trouve le ton juste pour décrire cet abus de faiblesse qui fut tant médiatisé. Avec un refus d'obstacle très frustrant quand même, le film prend soin de ne pas évoquer la partie politique du dossier, la fameuse affaire Wörth-Bettencourt.
En salle aussi ce mercredi, Yoroi, un film de fantômes et d'arts martiaux qui met en scène Orelsan.
Le rappeur normand dont le nouvel album sort justement la semaine prochaine, c'est ce qui s'appelle avoir le sens du timing, et ça rime avec marketing. 10 ans après le très réussi Comment c'est loin, Orelsan se raconte à nouveau à la première personne. Si le premier opus évoquait ses débuts chaotiques chez lui à Caen, Yoroi s'intéresse à son triomphe commercial qui le pousse à aller se mettre au vert au Japon.
Non mais attends, t'as commencé les arts martiaux à 32 ans. Puis vraiment, objectivement, t'es nul en baston.
Ouais bah ça va, j'ai compris cette partie-là.
Orelsan et sa compagne japonaise enceinte ont donc quitté le showbiz parisien pour une belle maison au milieu des rizières, mais cette maison est hantée et le couple doit passer ses nuits à combattre ses démons. Vous avez compris la métaphore, Orelsan est en pleine crise existentielle et c'est donc ses névroses qu'il va devoir surmonter dans des scènes d'action et d'épouvante assez convaincantes. Dommage que Yoroi soit trop long et souffre de vrais soucis de rythme, ce qui est un comble pour un film sur le rap.
Allez, on traverse la mer du Japon pour votre coup de cœur de la semaine. Il s'agit du film coréen « Ce que cette nature te dit ».
Oui, c'est le 33e long-métrage de l'infatigable et inclassable Hong Sang-soo. L'action se situe dans une jolie maison en pleine nature, en périphérie de Séoul. Un jeune poète va y rencontrer pour la première fois les parents de sa fiancée. Comme à son habitude, Hong Sang-soo compense son budget restreint par un art du plan séquence absolument remarquable, à la fois sensible et corrosif. Ce que cette nature te dit tisse patiemment sa toile pour décrire une famille au bord de la crise de nerfs que vous n'oublierez pas de sitôt.
Et il y a encore d'autres belles choses à voir cette semaine, Alexis.
Smash in Machine, encore un biopic, celui-ci racontant les succès et les échecs d'une ancienne star de MMA interprétée par le colosse Dwayne Johnson. L'étranger, adaptation par François Ozon du chef-d'œuvre d'Albert Camus, et la comédie dramatique Un poète, petit bijou signé du Colombien Simon Mesa Soto qui a reçu à Cannes en mai dernier un mérité prix du jury dans la catégorie Un certain regard.
Alexis Demeyer, Monsieur Cinéma à France Inter, merci à vous. À 13h25, on va voir ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure. On va parler du deuil un peu avant la Toussaint, du deuil au travail en particulier. Comment revenir après la douleur de la disparition d'un proche quand on est manager ou collègue? Comment accompagner? On en parle avec une psychologue du travail et l'association Empreinte spécialisée dans l'accompagnement juste après un deuil. Racontez-nous si vous y avez été confronté, on l'est quasiment tous. Comment ça s'est passé pour vous? 01 45 24 7000. Et bonjour Eric Fotorino et Frédéric Pommier.
Bonjour Amélie.
Dans C'est une chanson, Frédéric Pommier, vous allez nous mettre un petit peu de baume au cœur avec Lola Dubini aujourd'hui.
Lola Dubini, chanteuse, comédienne, humoriste, elle est en ce moment en tournée. Elle nous parlera de son admiration pour Dolly Parton à travers son tube I Will Always Love You, Amélie.
Et juste avant, Eric Fotorino, est-ce que c'est La France reste en France cette semaine?
Alors, chère Amélie, je vais vous sortir mon cornet. Si Rome n'est plus dans Rome, elle est tout où je suis. Alors, c'est La France ce mercredi. Nouvel album d'Astérix oblige, c'est la Gaule.
Partout, Tatis, on a hâte de vous écouter. Avant que le ciel nous tombe sur la tête, la météo, justement, elle est à venir.
Le soir, sur France Inter, 2 heures d'infos internationales et interactives.
Le 18-20, Fabienne Sintès.
À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète. En 40 minutes avec des experts, des témoins, nos correspondants et la rédaction internationale de Radio France.
Comme à Gaza, l'armée israélienne justifie ses destructions par des opérations qualifiées d'antiterroristes.
À 19h20, vous intervenez, vos questions à nos invités autour d'un thème qui vous concerne, c'est le téléphone sonne.
Le 18-20,
c'est du lundi au vendredi, à 18h sur Inter.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Un forcené dans une école maternelle. Un négociateur du GIGN. Entre eux, le dialogue ne doit jamais s'arrêter. Clara Dupont-Monod, la confrontation. Après S'adapter, prix Goncourt des lycéens, prix Fémina, la confrontation. Le nouveau roman de Clara Dupont-Monod. La confrontation, un roman Albin Michel. Le dialogue ne doit jamais s'arrêter.
Et le temps sur France Inter.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
La météo, c'est avec Sébastien Léas. Bonjour Sébastien.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
L'après-midi sera de plus en plus agité.
Ouais, le temps devient pluvieux avec l'arrivée d'une perturbation sur le nord-ouest et des remontées méditerranéennes sur le Languedoc et la Provence. Les pluies vont devenir plus régulières et même soutenues et orageuses entre les Cévennes et le Var, notamment à partir de la fin de journée. Prudence d'ailleurs, ces fortes pluies vont ensuite se décaler vers les Alpes-Maritimes ce soir, avant d'aller concerner la Corse pour demain. La perturbation va elle glisser vers la Normandie, le Poitou et le Centre-Val de Loire cet après-midi, mais de petites pluies intermittentes pourront aussi se produire entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le Limousin, ainsi que sur les Pyrénées. Alors l'après-midi sera quand même plus calme dans les plaines du sud-ouest, ainsi que entre le Grand Est, les Alpes et la Loire, mais les nuages vont s'épaissir et atténuer les éclaircies, éclaircies qui résisteront plus tardivement du côté de l'Alsace. Malgré ce temps perturbé, les maximales restent proches des normales d'une fin octobre. 14 degrés pour Lille, Caen, Brest et pour Nantes, 15 degrés à Paris et à Tours, 16 degrés pour Strasbourg, Dijon et Limoges, on ira jusqu'à 17 degrés à Lyon, 18 à Bordeaux, 19 degrés pour Toulouse, 20 à Marseille et Montpellier, et même 23 degrés du côté d'Ajaccio. À noter aussi une ambiance ventée sur les régions de l'Est, entre 60 et 80 km par heure entre la Méditerranée et le plateau lorrain.
Le ciel fait grise mine et nous aussi, Sébastien, puisque c'est la dernière fois que vous nous accompagnez à l'antenne pour nous parler de la pluie et du beau temps. Vous allez nous manquer, vraiment,
vous
puisque
aussi.
Au-delà d'une voix, votre expertise nous était précieuse en ces temps agités pour la planète. Je vous dis bon vent.
Bon vent.
Oh là là. Nous aussi, on a beaucoup d'émotions. Partez pas les mains vides. Merci encore, Sébastien Léas. À bientôt.
France Inter, le 13-14, Amélie Berryer.
C'est peut-être l'une des épreuves les plus universelles, celle qu'on a quasiment tous déjà traversée avant la Toussaint. On parle du deuil aujourd'hui. Comment vivre son deuil au travail en particulier? Plus de 3 millions de Français perdent un proche chaque année. Selon le baromètre 2025 du Crédoc, près de la moitié des personnes endeuillées se mettent alors à prendre davantage de médicaments, de boire plus d'alcool ou de fumer davantage. Et pourtant, au travail souvent, on doit garder ça pour soi. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Nathalie Hanet, bonjour.
Bonjour.
Vous présidez l'association Empreinte, accompagner le deuil. En ligne également avec nous, Cécile Serowski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue du travail spécialisée en risques psychosociaux. Nathalie Hanet, le deuil, c'est pas une affaire privée, c'est pas une affaire intime?
C'est devenu malheureusement une affaire privée, une affaire intime. Le deuil a été désocialisé au cours du dernier siècle en France, si bien qu'aujourd'hui, les personnes qui vivent un deuil, donc 9 personnes sur 10, vous le rappelez, sont exposées à la souffrance et à différentes formes de souffrance liées au manque, mais elles doivent le vivre de plus en plus seules, et y compris en culpabilisant du fait que l'image qu'on leur renvoie, c'est « comment tu es encore triste? Comment tu n'es pas reparti ?» Et ça s'exprime parfois dans le cercle personnel, mais ça s'exprime de façon massive au travail.
En quoi l'entreprise est concernée? En quoi l'entreprise doit agir pour son salarié endeuillé?
Si vous regardez les résultats de l'enquête, on voit que 12% des personnes endeuillées perdent leur travail à l'issue d'un deuil. C'est déjà un premier indicateur.
Ouais, effectivement.
Le deuxième indicateur, et c'était l'enquête Crédoc qu'on avait fait en 2021, montrait que 50% des employeurs n'ont rien prévu pour accompagner un salarié endeuillé. Or, à la suite d'un deuil, dont l'intensité et les souffrances provoquées dépendent à la fois du lien qu'on avait avec l'endeuillé, des circonstances du deuil, mais aussi de l'état dans lequel on est au moment où ce deuil survient, ça entraîne, comme vous l'avez mentionné aussi, des tas de difficultés, des problèmes de sommeil, de concentration, de stress, voire pour une personne sur 5, des envies suicidaires, des états dépressifs. Et c'est la raison pour laquelle, fatalement, au travail, il y a un impact. Ce qu'on attend et ce qu'on recommande aux employeurs, c'est de mettre en place un référent deuil qui sera le sachant référent et qui aidera à mettre en place un accompagnement à la fois par le manager de proximité de la personne endeuillée, mais aussi à socialiser cette situation de deuil avec l'autorisation et l'assentiment de la personne concernée, bien sûr.
Vous êtes déjà nombreux à nous appeler au standard au 01 45 24 7000. Merci d'avance, puisque j'imagine que c'est pas évident de parler du deuil. On va tout de suite accueillir Florence. Bonjour Florence.
Oui, bonjour.
Racontez-nous.
Oui, merci de prendre mon témoignage. J'ai perdu mon père l'été dernier. Moi, j'étais salariée dans un foyer de vie qui accueille des personnes handicapées, adultes. J'ai accompagné mon père. J'étais également aidante, jusqu'au bout. Le décès est survenu pendant mes congés annuels. Donc, si vous voulez... étant un peu dans cette bulle d'accompagnement auprès de mon père, étant en congé, donc dispo, j'ai pas du tout eu le réflexe de prévenir mes employeurs et de proposer de prendre les jours de deuil qui sont proposés dans la loi. J'ai laissé passer mes congés, j'ai repris mon travail quasi normalement. En amont, j'ai appelé quand même pour prévenir la situation, hein, quelques jours après. Mais mon manager n'a pas répondu à ma demande, à savoir que je souhaitais avoir d'autres jours.
Oui.
Je ne me sentais pas capable de reprendre le travail. Donc, je n'ai pas senti d'écoute et de soutien plus que ça. Donc, j'ai repris le travail. Je travaille en équipe, donc c'est difficile pour moi aussi de, entre guillemets, laisser tomber les collègues, les résidents également. Voilà, c'est un métier particulier aussi, hein, et c'est paradoxal parce que voilà, c'est un endroit où on accompagne la personne, mais les salariés, malheureusement, ne le sont pas toujours bien.
Merci Florence de nous avoir appelé. Cécile Serowski, ce qu'on entend, c'est une pression monstrueuse qu'on se met sur les épaules, souvent, pour retourner au travail.
Oui, exactement. Parfois, il y a beaucoup de culpabilité à faire comme si de rien n'était et à être comme avant. Or, on se rend bien compte que lorsqu'on est traversé par un deuil, hein, c'est un processus, ça se fait pas de manière rapide, ça se fait dans la durée et ça peut être beaucoup plus compliqué. Et je crois qu'il faut vraiment réussir à s'écouter, à se donner du temps et quand même oser en parler à son manager, à ses RH, au médecin du travail si on se retrouve en difficulté comme ça, si on sent, là comme c'est le cas pour Florence, qu'on se retrouve en difficulté de pouvoir accompagner au mieux et faire son travail au mieux. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas une faiblesse, c'est une difficulté à un moment donné. Et je pense que le courage de dire que là, ça ne va pas et qu'on a besoin d'aide, c'est ce qu'il y a de plus important.
Cécile Serowski, ce n'est pas à double tranchant quand même de reprendre le travail. Parce qu'à la fin, on imagine bien que ça peut permettre de sortir de l'isolement, se changer les idées, mais ça peut être aussi extrêmement pénible, on le comprend.
Ouais, ça va être vraiment au cas par cas. Parce qu'il y en a pour qui ça va être une ressource, ça va être un repère, une reconstruction, parce qu'on est bien avec nos collègues, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on sort de l'isolement. Et pour d'autres personnes, ça va être source de pression, où va falloir être, en tout cas, se sentir productif, être productif et avoir cette exigence d'émotionnel qui est de faire comme si de rien n'était et que je souris en façade, je mets un masque alors qu'à l'intérieur de moi, je suis complètement effondrée. Donc c'est vraiment au cas par cas et c'est à en discuter avec son manager, avec ses équipes, et puis si on a besoin de temps, et ben on se prend ce temps-là pour ne pas retourner au travail tout de suite. Il y a des aménagements possibles, il y a des horaires qui peuvent s'aménager, une charge de travail qui peut aussi être aménagée.
On a droit à 3 jours de congé en cas de deuil, c'est ça Nathalie Hannet ? 14 jours si c'est un enfant ?
C'est ça, le droit du travail prévoit des dispositions à minima. Et encore, pour de la famille directe, aujourd'hui, les questions se posent notamment pour les familles recomposées, quand on perd un beau-père, une belle-mère, un demi-frère, une demi-sœur. Et on a réussi avec l'ensemble des associations qui sont comme nous investies dans ce sujet, à pousser et à faire que soit augmenté le temps de deuil quand on perd un enfant de moins de 25 ans ou un jeune pris à charge
c'est pour ça qu'on
moins
arrive
de 25
à 14 jours.
C'est 14 jours, plus éventuellement encore 8 jours.
Mais ça paraît encore très très peu, on ne fait pas son deuil en 3 jours ou en 14 jours.
En fait, c'est dérisoire ce temps-là, il est réservé finalement à des choses très pratico-pratiques de mise en place de démarches, enfin il est réservé, il est pensé
on organise les obsèques.
Exactement. Il peut être
c'est pas du tout le moment du deuil, souvent, en plus.
Non, le moment du deuil,
il arrive après.
C'est plusieurs semaines, c'est plusieurs mois, ça peut être plusieurs années. Il y a des gens qui témoignent en disant que pour eux, ce deuil ne terminera jamais et qu'ils vivront éternellement avec la souffrance de l'absence de la personne proche qu'ils ont perdue. Donc, oui.
C'est ça, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer.
Non, et c'est pour ça qu'on observe qu'il y a des arrêts de travail qui sont proposés aux personnes endeuillées pour leur permettre de souffler quand le travail n'est pas une ressource. Un tiers des gens disent « reprendre le travail m'a aidé ». Mais, comme le disait très bien la psychologue du travail, c'est en effet au cas par cas, et suivant les personnes, c'est une ressource ou pas du tout.
Et les arrêts de travail, ça représente, j'ai lu, 700 millions d'euros par an,
absolument.
C'est ça ? Un arrêt de travail en moyenne, 34 jours ?
C'est ça. C'est l'enquête du CREDOC qu'on avait faite en 2021 qui nous avait conduit à ce chiffrage.
On va retourner au standard. Christiane, vous nous avez appelé. Bonjour.
Oui. Bonjour.
On vous écoute.
Moi, le travail m'a beaucoup aidée. Et d'ailleurs, après ce décès, puisque j'ai perdu mon fils qui avait 27 mois en 1972, donc vous voyez, ça peut paraître très loin, mais en réalité, j'y pense tous les jours. Le travail m'a beaucoup aidée et à partir de ce moment-là, je me suis jetée dans le travail je travaillais tous les jours, je n'ai pas pris de vacances, voilà.
Et vous dites que ça vous a aidé ? Vous avez été accompagnée par votre chef, par vos collègues au travail ?
J'ai eu beaucoup de gentillesse autour de moi et je crois que c'était en fin de compte moi la plus odieuse. Parce que quand vous n'êtes pas bien, quand vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous n'êtes pas toujours très agréable. Et j'ai trouvé que les gens qui m'entouraient avaient eu beaucoup de patience et vraiment j'ai trouvé beaucoup de soutien.
Cécile Serowski, merci beaucoup Christiane de nous avoir appelé. Cécile Serowski, vous animez des webinaires. Comment soutenir les personnes endeuillées quand on est collègue ? J'ai lu par exemple qu'au retour d'un salarié, il valait mieux pas demander comment ça va, comme si rien ne s'était passé.
Effectivement, de faire comme si rien ne s'était passé, ça vient minimiser la douleur, donc ça peut être très compliqué. Parfois, quand on est collègue, on ne sait pas comment agir, parce qu'on est confronté à cette douleur, on se sent totalement impuissant. Mais l'idée, ça va vraiment de montrer et de faire preuve de gentillesse, de bienveillance, de montrer qu'on est là, et justement de dire « je suis là si tu as besoin ». Ou de poser la question « de quoi as-tu besoin ? Comment je peux t'aider ?»
Et plutôt que « comment ça va », c'est « comment vas-tu aujourd'hui ?»
Voilà, faire de toute façon, c'est jour après jour. Il n'y a même pas besoin de demander à la personne comment elle va, mais en tout cas lui dire, écoute, je suis là si tu as besoin. Et si tu veux m'en parler, je suis là. Si tu ne veux pas m'en parler, je suis là aussi. Je peux être présent, on peut prendre un café, même dans le silence. Parce que parfois, il y a beaucoup de culpabilité aussi quand les personnes reviennent après un deuil en se disant, il va falloir que je raconte. Mais non, on a ce droit au silence, on n'est pas obligé de tout raconter, on n'est pas obligé de tout dire. Mais juste de dire, là en ce moment, c'est compliqué, de se préparer des petites phrases un peu refuge, comme j'appelle ça. Avoir une petite phrase un peu préparée pour dire, là effectivement, c'est compliqué pour moi, mais j'avance au jour le jour.
L'association Empreinte, Nathalie Ney, elle a rédigé un guide du deuil au travail qui est hyper pratique et très bien fait. Je trouve, on le trouve où d'ailleurs, ce guide ?
Alors, vous pouvez le télécharger, mais contre rémunération, sur notre site.
Et on y trouve notamment les phrases à ne pas dire. Il y en a pas mal, alors j'en ai noté quelques-unes. Je n'ai pas le temps pour vous écouter, c'est pas mon problème. Moi aussi, j'ai vécu ça, ça faut surtout pas dire ça à un salarié. Ça va passer, vous allez vous en remettre. Je suis désolée. Pourquoi faut pas dire je suis désolée à un salarié qui revient endeuillé ?
En fait, on n'a pas tellement à être désolé, on a à être empathique, à l'écoute et être à côté d'eux. Et c'est d'ailleurs la démarche d'accompagnement que propose Empreinte à près d'un millier de personnes chaque année. C'est uniquement d'être à côté, d'expliquer le cheminement du deuil pour donner à la personne des ressources. Et en milieu de travail ou dans le registre personnel, être à côté de la personne qui chemine dans sa souffrance. Et d'avoir un lieu où l'exprimer, sa souffrance, montrer qu'on va mieux ou montrer à l'inverse qu'on a l'impression de replonger. Mais d'avoir toujours un espace où poser cette souffrance est très aidant. Et cette écoute dans l'univers professionnel comme dans l'univers personnel est assez clé pour aider les gens à cheminer.
Selon l'étude du Crédoc, un manager sur trois a déjà accompagné un salarié endeuillé. Est-ce que c'est le rôle du manager ?
C'est le rôle du manager d'accompagner la reprise du poste et d'accompagner la capacité de la personne à tenir son poste, en fait.
Donc on fait un entretien, par exemple, quand on revient ?
Notre recommandation, c'est effectivement que l'employeur puisse faire un entretien, ouvre cet espace de dialogue en laissant la personne dire ce qu'elle souhaite dire de ce qu'elle vit, de son deuil, et en concentrant ensuite l'échange sur de quoi as-tu besoin pour reprendre ton travail ? De quelle façon on peut t'aider ? Est-ce que tu te sens capable de reprendre l'intégralité de ton poste et de tes missions ? Ou est-ce que tu souhaites que je te décharge en partie pendant une période qu'on déterminera et qu'on évaluera ensemble ? Donc
Mais c'est difficile de ne pas s'immiscer dans la sphère intime, parce que c'est une douleur très intime, très personnelle, le deuil.
C'est une douleur très personnelle, mais comme elle a des impacts sur tous les espaces de vie, y compris la vie professionnelle, il faut qu'elle soit prise en charge aussi dans cet univers-là. Et il ne s'agit pas de devenir le thérapeute ou l'accompagnateur du deuil de la personne en question, mais bien d'accompagner dans son rôle de manager la reprise du travail et la capacité à exercer ce travail. Quitte à ouvrir un espace en disant « Écoute, je te sens tellement en difficulté, est-ce que tu souhaites t'arrêter, rencontrer le médecin du travail ?» pour déculpabiliser la personne et lui offrir cet espace-là.
Et vous encouragez également, au-delà du manager, à ce qu'il y ait un binôme d'intervention, sans lien hiérarchique.
Le binôme a pour vocation de proposer des interactions avec deux personnes différentes, de sensibilités différentes, et d'offrir du coup un espace interactif à la personne qui lui permet à certains moments de s'appuyer sur l'une, sur l'autre, et de pouvoir cheminer de façon plus confortable. Parce que si on propose une personne en interlocuteur et qu'il se trouve que, d'un point de vue de la sensibilité, ça fonctionne pas, alors c'est évidemment pas pertinent.
On va retourner au standard. Bonjour Jean-Luc. Est-ce que vous êtes en ligne avec nous, Jean-Luc? Oui, on vous écoute. Allez-y, on vous écoute.
Oui, voilà. Mon témoignage concerne le fait que j'ai perdu mon emploi à cause du décès de mon père. Donc la situation, c'est qu'au mois de janvier, j'ai changé d'entreprise pour donc prendre un nouveau poste à 39 ans. Mon père était malade depuis 2 ou 3 ans, une maladie neurologique, donc la fin était connue, inéluctable, on ne savait pas quand. Donc j'avais partagé ces informations-là. Il se trouve que 15 jours après ma prise de fonction, la situation s'est dégradée. Et mi-février, il est décédé, donc j'ai dû m'absenter pendant 2 semaines. J'ai eu un soutien énorme et tout à fait normal de mon management opérationnel. Mais en fait, j'étais dans une entreprise internationale, donc le management n'était pas directement connecté aux RH françaises. Et j'étais aussi dans un poste au service d'autres personnes à l'intérieur de l'entreprise. Donc il n'y a pas eu de communication auprès de ces personnes-là. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas su pourquoi je m'étais absenté. Ils n'ont pas accepté la situation. Et ils ont tout fait pour montrer que je n'étais pas du tout adapté au poste.
Oui.
Et j'ai été licencié. Un mois après.
Ouais.
Alors j'étais en période d'essai, donc facile à stopper une période d'essai.
Ouais.
Voilà. Donc,
merci Jean-Luc, merci beaucoup. Ce qu'on entend, Nathalie Hannet, il y a 2 choses. Hein, c'est que, alors là, c'est un licenciement. Il y a beaucoup de personnes qui quittent leur emploi parce que ça devient trop douloureux. Il y en a qui sont licenciés.
Ah, mais majoritairement, dans les 12%, ce n'est pas des gens qui démissionnent. C'est des gens qui, dans des circonstances tout aussi incompréhensibles que celles que vient de relater l'auditeur, se retrouvent sortis de leur emploi de façon brutale.
Et en quelques mots, c'est un défaut de communication aussi au sein de l'entreprise.
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que là, on voit très bien que s'il y avait eu une communication pour expliquer « Désolé, ce collaborateur traverse un deuil, il va être affaibli, il sera moins à l'écoute, mais on fait en sorte que le service soit maintenu », il y aurait forcément de la clémence et finalement de l'empathie vis-à-vis de lui.
Merci beaucoup Nathalie Hannet. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'association Empreinte Accompagner le Deuil. Merci aussi à vous, Cécile Serowski, psychologue du travail, spécialisée en risques psychosociaux. Allez, à 2h moins le quart, c'est le moment de sortir vos bombes de peinture. Une semaine dans leur vie à Dijon. Victor Vasseur nous emmène au festival Banana Pchit, dédié aux arts urbains. Les street artists s'expriment partout sur les murs de la capitale de Bourgogne. Des fresques, des pochoirs et les enfants s'y mettent aussi, accompagnés par les artistes.
Donc là, ni trop frais, ni trop loin. Tu remplis comme un coloriage, comme à l'école. Un peu plus frais. Il ne faut pas que ça fasse trop de vapeur. Donc tu peux t'approcher encore. Voilà, là, c'est pas mal. Tu remplis, nickel. Allez, tiens, essaye de ne pas dépasser. Si tu dépasses, je corrigerai, t'inquiète. Parfait. Tu veux peindre ?
Oui, oui.
Après, si t'as une tâche, ça fait partie du jeu. C'est le métier qui rentre. Alors moi c'est Nexer, je suis artiste depuis quelques années et j'ai rejoint l'aventure Banana Pchit cette année. Et donc là j'anime un petit atelier pour le festival pour transmettre notre passion aux plus jeunes.
Ils se prennent vite au jeu les enfants?
Ils adorent. Il y a un côté magique avec la bombe de peinture, c'est ça qui nous a mis dedans aussi nous les artistes. On appuie dessus, c'est instantané, il y a quelque chose qui se passe, c'est un changement direct et plutôt radical. Donc ça leur parle tout de suite, ça coule, c'est marrant, c'est ludique, donc ils ont tendance à beaucoup aimer ça.
Joseph, qu'est-ce que t'aimes dans le tag?
Bah, j'aime la créativité et les choses qu'on peut faire avec. J'ai vu des gens qui faisaient des graffitis sur YouTube et du coup je voulais faire un peu comme eux. Bah, souvent je dessine des têtes de mort parce que j'aime bien j'aime bien les films d'horreur ou tout ça.
Allez, on part sur l'essai. Décale-toi un peu si tu veux, pour être bien en face. Vas-y, appuie sur l'avant.
Stop.
Vas-y.
Donc je m'appelle Hugo, j'ai 37 ans. En fait, moi j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé avec le graffiti. Je faisais des graphes dans la rue à Marseille. J'ai une pote qui était EduxP qui m'a embrigadé pour bosser sur une fresque dans un foyer pour enfants. Et c'est en faisant une fresque en foyer que j'ai découvert le métier d'EduxP et c'est ça qui m'a amené après à me former et tout ça. Et après j'ai continué à garder la pratique du graffiti dans mon métier d'EduxP quoi.
Les enfants sont vraiment attirés par le graphe?
Bah parce que la bombe, c'est un outil super ludique, marrant, quoi. Donc, nous, ce qui nous a amené au graffiti, je pense aussi, c'était l'outil vraiment qui faisait que, bah, quand en un coup de bombe, on pouvait recouvrir des grosses surfaces, écrire sur tous les supports. C'est peut-être pour ça que ça joue.
En tout cas, là, avec cette étape, t'as vu comment on construit un graffiti.
Oui.
Hein ? Et après, on met un petit tag, normalement.
Je sais pas, j'ai improvisé. J'ai essayé de faire un petit peu un E avec un trait au milieu.
Alors, tu veux en faire un?
Marcus, et j'ai 10 ans. Bah là, je vais essayer d'écrire mon prénom en grande taille.
Là, le M, il fait déjà presque un mètre de large.
Je voulais faire grand et prendre de la place pour voir si j'arrivais.
C'est la première fois que tu fais du graffiti?
Oui. Bah, j'aime bien, c'est agréable. Parce que le bruit, l'odeur, et puis savoir qu'on fait quelque chose qui va rester.
Parce que tu vois, dans le graffiti, il ne faut pas recouvrir le graphe d'un autre. C'est mal vu. Du coup, je pense qu'il va rester jusqu'à l'an prochain. Juste à temps qu'on fasse un événement.
Une semaine dans leur vie, c'est Mathias Volant à la réalisation de notre feuilleton.
France Inter, le 13-14.
À 13h50, c'est la France, le regard d'Éric Fautorino du 1 Hebdo. Et aujourd'hui, Éric, on se plonge dans Astérix, le 41e album des aventures du célèbre Gaulois Paré, Astérix en Lusitanie. Et vous vous penchez, Éric, sur ce mythe, qui ne remonte pas à Jules César, mais donc au célèbre duo Uderzo-Goscinny, les pères du petit Gaulois, né en octobre 1959.
Et oui, c'est presque un anniversaire, à quelques jours près. Amélie, toute sortie d'un nouvel opus de ses aventures gauloises, a un éternel parfum d'enfance. Et c'est un bonheur de voir que le nouveau tandem créatif, Didier Conrad au crayon et Fab Caro au scénario, a trouvé comment, entre guillemets, décoincer la bulle pour sa deuxième collaboration. Ce sont en effet des personnages bien réveillés que nous retrouvons sous le soleil portugais. Les équipées lusitaniennes des célèbres héros, sur fond de saudade, comprenaient une douce mélancolie, renouent avec les meilleurs road movies des joyeux compères. Je pense à la voisine Hispanie, à Astérix chez les Bretons, chez les Helvètes ou en Corse. L'histoire réussit son dosage entre Romain ridicule et mots d'esprit, sans oublier les allusions non feintes à l'actualité française, pour ne pas dire gauloise, crise des retraites et satire du capitalisme sont au menu.
De l'avoir la résurgence du roman national, vous n'êtes pas vraiment convaincu.
Oui, c'est vrai qu'en découvrant dimanche la couverture du JD News sur Astérix, saluant dans le petit Gaulois moustachu le retour du mythe français, je n'ai pas souscrit à cette annexion un peu rance d'un personnage qui, sous couvert de cocorico, a toujours précisément su élargir ses horizons pour s'éloigner d'une idéologie moisie. Astérix et ses amis incarnent au contraire une ouverture aux autres et aux cultures différentes. De quelle idée de la France le petit Gaulois est-il le symbole ? Demande ainsi Julien Bisson dans un récent hors-série du 1 Hebdo titré « Astérix, une autre idée de la France ». Réponse, il fait parfois figure d'emblème national, il ne faut pas s'y tromper. À contre-courant de l'idée d'une nation figée dans son histoire, cette BD culte met en scène une France bien vivante, pleine de diversité, de nuances et de contradictions, capable de rire d'elle-même plutôt que de se réfugier dans un esprit de surplomb et d'intolérance. Et je le rappelle, Astérix est né de la fantaisie irrévérencieuse de deux artistes immigrés, Goscinny venu d'Argentine et des États-Unis, Uderzo d'Italie.
Et est-ce là le secret d'un humour qui traverse les époques ?
Je n'oserais pas répondre, vous l'avez dit, bouffi, chère Amélie. Mais il y a du vrai dans votre remarque. L'humour d'Astérix qui survit à ses créateurs ne peut relever d'aucune chapelle idéologique. Il appartient autant à la bonne humeur qu'au travers bien français que sont le goût de la chamaillerie, de la vantardise et du mauvais caractère, le tout corrigé par un côté bon camarade et bon vivant qui aime finir les querelles autour d'un bon plat. Quant au président Macron, qui, souvenez-vous, en 2018 déclara devant la reine du Danemark qu'il voyait en nous un peuple de Gaulois réfractaires au changement, disons que le compliment pourrait lui être retourné. En attendant que les nouveaux pères d'Astérix aillent voir de plus près du côté de Copenhague, au pays des Legos, des containers et de la petite sirène, peut-être un prochain album.
Et dans le A Hebdo cette semaine, Eric.
Nous vous invitons à plonger dans les mystères du Louvre, 10 histoires aussi savoureuses que rocambolesques. Vous saurez tout sur la vie secrète du célèbre musée, sur le vol de la Joconde en 1911 par un vitrier italien, mais aussi sur son premier directeur, Vivian Denon, ancien espion, diplomate et libertin, sans oublier des éclairages passionnants sur les acquisitions de faux au Louvre, sur Belphégor et les fantômes du musée, sur la spoliation par la France napoléonienne des noces de Cana, ou sur l'exode des chefs-d'œuvre en 1939, avant l'arrivée des nazis.
Merci Eric Fotorino du 1 Hebdo. Merci de C'est la France, ah, c'est une chanson. Votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, est à la fois chanteuse, comédienne et humoriste. Il s'agit de Lola Dubini.
Lola Dubini qui est en ce moment en tournée avec son spectacle Prélude. Et c'est un titre de Dolly Parton qu'elle a souhaité que l'on écoute. Je t'aimerai toujours, Amélie. Autrement dit, I will always love you.
Cette chanson, elle compte beaucoup parce que c'est la première chanson de Dolly Parton que j'ai écoutée. Je connaissais la version chantée par toutes les divas. Et un jour, je me suis dit, mais c'est une si belle chanson d'amour qu'il faut que je sache d'où elle vient. Et je me suis rendu compte que c'était une histoire d'amour entre une femme et son agent. Et tout le monde pense que c'est une des plus belles chansons de rupture et d'amour en soi. Mais en fait, c'est une chanson d'un amour de business et d'un amour de reconnaissance. Et en fait, toute l'histoire autour de cette chanson m'a fait comprendre qu'en tant que femme, dans l'industrie de la musique, il fallait se battre toujours pour ses droits et pour sa liberté. Et Dolly Parton, elle dit une phrase à la fin de son premier concert qui l'a fait vraiment connaître à New York. Pour avoir l'arc-en-ciel, il faut supporter la pluie. Et c'est mon mojo depuis que j'ai écouté cette chanson. Donc en fait, à chaque fois, avant de monter sur scène, j'écoute cette chanson parce qu'elle me calme et elle me fait penser que je suis légitime à être présente puisque Dolly Parton s'est battue pendant des années, quoi.
Vous, vous êtes beaucoup battue ?
Je pense, ouais. Je pense que je me suis pas mal battue parce que je suis arrivée par des sentiers pas forcément évidents. Je suis arrivée par YouTube. En France, j'ai été la première femme à parler de musique sur Internet et à pas me sentir légitime. Et quand j'ai découvert Dolly Parton, c'était dans ces périodes-là, je me suis dit, bon, en fait, je suis légitime parce que Dolly Parton, elle s'est toujours battue. Et après, je suis devenue fan de la personne. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way.
Tout le monde chante chez soi. Alors Frédéric, cette chanson, on la connaît aussi dans la version de Whitney Houston.
Oui, mais c'est vraiment la version originale, celle de Dolly Parton, que préfère Lola Dubini.
Ce qui me plaît chez Dolly Parton, c'est son côté rural, en fait. C'est le côté, nous, ce qu'on appellerait province, vraiment de manière extrêmement snob quand on habite à Paris. Mais moi, je viens de province. Et ce qui me plaît chez Dolly Parton, c'est qu'elle vient vraiment d'en bas, quoi, du bas de l'échelle. Et elle a réussi à gravir et à être libre dans sa carrière et dans ses choix. Ce que j'aime chez Dolly Parton, c'est le trop... C'est l'exagération de ses ongles en acrylique. C'est parfois même presque le mauvais goût poussé à son excellence. Et ça en devient du génie, selon moi.
Vous, votre province, c'était quel endroit ?
Ma province, moi je suis née à Villeurbanne, donc à côté de Lyon. Mais j'ai grandi à Angers, dans des petits bleds à côté d'Angers, etc. Et du coup, moi j'ai grandi avec des exemples populaires. Et c'est la première fois que je parle sur France Inter, vous voyez. Donc moi je suis très fière de représenter un peu parfois le populaire, même à la télé, de jouer dans des séries qui sont ce qu'on dit populaire. On dit toujours t'es trop populaire ou t'es machin. Moi je suis trop fière d'être aimée par les gens qui habitent en région et des gens qui ressemblent à ma famille. Goodbye. Please don't cry.
We both know that I'm not. Vous avez quoi de Dolly Parton? Ses origines provinciales.
Ouais.
Vous n'avez pas les ongles?
Non, je les ronge. Je ne supporte pas l'acrylique. Mais j'ai aussi la facette qu'on connaît moins de Dolly Parton. C'est cette facette, elle fait tout. Cette chanson, en fait, I Will Always Love You, elle intervient à un moment de sa vie où elle choisit sa liberté. Elle quitte son ancien manager qui l'a propulsée. Et elle dit, je veux produire mes propres sons, je veux écrire mes chansons, je veux les composer, je veux tout faire toute seule. Et moi, j'ai ça depuis toujours. C'est moi qui écris, c'est moi qui compose beaucoup et qui écris aussi les textes de mon spectacle. J'ai cette facette créative que Dolly Parton est là et ce côté intransigeante à dire « moi je sais le faire, ayez confiance en moi, je vais y arriver ».
But above all of this, I wish you love, and I will always love you.
Est-ce qu'il vous arrive de la chanter, cette chanson ?
Eh bien, bizarrement, non. Parce que j'aime tellement cette version, et je ne peux plus écouter les autres. J'aime vraiment la pureté de ce qui se passe dans celle de Dolly Parton. C'est sublime. Sublime.
I will always love you, Dolly Parton. C'était donc, Frédéric, le choix de Lola Dubini.
Lola Dubini actuellement en tournée avec son spectacle Prélude, qu'elle jouera notamment ce soir à la Comédie de Toulouse.
Merci beaucoup, Frédéric Pommier. À suivre après les infos de 14h, au fil de l'histoire, avec Stéphanie Duncan.